Et de retour, on a le plaisir d'avoir avec nous Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
On a fait encore une fois le tour du monde. Nous, au cours de la dernière heure, on a fait un petit peu le tour du Québec. On est allé au Saguenay, on est allé à Mont-Joli, on est allé à Bellechasse. Mais grâce à vous, nous élargissons nos horizons.
Oui, on va être beaucoup en France cette semaine. Donc, on commence en France où on parle du numérique, qui est une belle opportunité pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, mais qui a ses limites tout de même. Donc, on parle d'une adaptation des postes numériques qui ne seraient pas tout à fait à jour ou tout à fait adaptés aux besoins. Donc, c'est quelque chose qu'on veut essayer de rendre mieux adapté. Donc, le gouvernement a entériné une ordonnance visant à contrôler l'accessibilité des sites d'administration publique à
Oui.
partir de 2024.
Oui,
Donc,
puis ça, oui, on en sait quelque chose parce que ici au Québec, des fois, les sites d'administration publique, là, sont pas 100% accessibles.
effectivement, donc on pense que c'est le même problème en France. Donc, dès 2024, il va y avoir obligation pour ces sites-là d'être complètement accessibles pour aider les personnes en situation de handicap à mieux naviguer sur les sites et à réduire en fait les problèmes d'accessibilité au niveau des sites publics.
Et ça, c'est cette loi-là, si je peux dire, elle a des dents, parce que le non-respect de l'accessibilité des sites, déjà, en fait, il y avait une loi qui datait de 2005, là, mais qui n'était pas.
Qui n'était pas respecté, ou
Oui,
du moins
tout à
qui.
fait.
Voilà.
Ça passait un petit peu à côté. Ça manquait la cible. Mais là, il y a maintenant, les contrevenants seront passibles de sanctions dont le montant pourrait atteindre 50 000 euros. C'est
Donc,
pas
c'est
rien.
quand même, voilà, c'est quand même beaucoup. Et on parle aussi de sanctions pour ceux qui sont récidivistes. Donc, ça pourrait rapidement monter à facture.
Ben, et voilà, et ça, ça fait partie des nombreux engagements que le gouvernement français a pris depuis avril dernier, au moment d'un sommet important au sujet de l'accessibilité et de la situation des personnes en situation de handicap en France. Puis ça, là, on s'aperçoit que presque d'une semaine à l'autre que ça a des répercussions, qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors, c'est un dossier qui avance. Cette semaine en Europe, c'était la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 20 au 26 novembre. Alors là aussi, il y a eu toutes sortes de choses autour de cette thématique.
Il y a eu toutes sortes de choses, mais on va parler entre autres d'ambassadeurs d'accessibilité qui sont des volontaires en service civique qui vont aller parler avec des gens qui détiennent des commerces un peu partout sur la rue pour aller sensibiliser à l'importance de l'accessibilité universelle. Donc, leur travail, c'est un peu de faire une conversation avec ces gens-là, de les informer, de leur donner des idées, d'ouvrir un peu les esprits en leur rappelant à quel point c'est important de faire ça pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc, ces gens-là sont mis à profit. Donc, c'est des bénévoles là, qui sont mis à profit pour aider à avancer la situation d'accessibilité universelle en France.
Alors, ces jeunes volontaires vont littéralement les cogner à la porte des commerces, puis essayer de les sensibiliser. Alors, on espère qu'ils aient un bon accueil, puis
La
que.
priorité va être donnée donc aux agglomérations qui vont accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, encore
Ah,
une fois,
oui.
étant donné qu'on peut penser qu'il n'y aura pas assez de bénévoles là, pour faire tous les agglomérations de France. On va commencer avec celles qui sont prioritaires pour les Jeux paralympiques et olympiques.
Et alors, on parle donc de sillonner les quartiers à la rencontre, aller à la rencontre, dis-je, des commerçants, des artisans, des hôteliers et des médecins. Et parlant de médecine, il y a aussi une initiative à ce sujet-là de santé.fr.
Oui, santé.fr qui a introduit l'annuaire d'accessibilité des cabinets. Donc, depuis le 20 septembre, c'est consultable sur santé.fr. C'est un annuaire qui va rassembler les services médicaux. En ce moment, il y a plus de 3 500 professionnels de santé qui sont dans cet annuaire-là. Et l'annuaire, donc, propose, voit si les services sont adaptés, s'ils sont adaptés, à quel type d'handicap ils le sont et quels sont possiblement les obstacles possibles pour que les personnes en situation de handicap puissent se rendre sans problème ou à tout le moins de limiter les problèmes qu'ils vont avoir en se rendant chez un professionnel et pouvoir choisir un professionnel qui répond à leurs besoins, entre autres aussi au niveau de l'accessibilité physique, mais également au niveau des capacités ou de l'expérience du professionnel avec les personnes en situation de handicap. Donc, s'il y a déjà eu de l'expérience avec un type de clientèle qu'une situation de handicap particulière, par exemple.
Oui, oui, puis qu'il soit... Et ça, c'est important parce que l'accueil, la capacité de bien servir les équipements...
Et des fois, il faut s'adapter. On a un type d'handicap qui est particulier. Il y a des types d'handicap invisibles qui demandent une adaptation de la part du médecin ou du personnel soignant. Et les gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne savent pas agir avec ces personnes-là, pourraient faire des faux pas. Et des fois, bon, ces personnes-là sont un petit peu plus difficiles à traiter. Et donc, quelqu'un qui a l'habitude, ça peut grandement faciliter les soins de la personne.
Oui, puis on a vu... l'envers de la médaille, on a vu aussi souvent des situations où des personnes en situation d'handicap se faisaient refuser
oui.
des rendez-vous à des cliniques. C'est arrivé entre autres au Québec aussi, parce qu'il n'y avait pas l'équipement. Ou en fait, presque gênés, on leur disait que ça ne marcherait pas, puis on préférait de fait simplement ne pas les recevoir. Là. Ça, c'est arrivé aussi. Alors, donc, d'avoir un annuaire, d'avoir une ressource qui permet d'identifier les cliniques médicales ou les ça peut être différents types de pratiques médicales qui sont prêts et formés pour accueillir des personnes en situation d'handicap. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention, a déclaré qu'une forte mobilisation des professionnels de la santé est indispensable.
Hein? On parle d'une consultation publique qui a eu lieu pendant 4 mois. Qui a sorti les différents problèmes d'accessibilité aux soins et l'annuaire répond aux demandes qui ont été faites pendant la consultation publique. Et on parle aussi d'une difficulté d'accès aux soins pour 66 % des personnes en situation de handicap. Donc, 66 % d'entre elles disaient avoir de la difficulté à accéder à des soins qui sont adéquats pour leurs conditions.
Et là, on peut imaginer à ce moment-là... Là... Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas accès, on laisse traîner, les expériences qu'on a vécues dans des cliniques sont douloureuses, sont pénibles. Alors là, finalement,
Bien, souvent, on n'a pas le goût d'y retourner. Déjà exact. Que c'est pas le fun pour personne.
Oui.
Mais en plus... évidemment, ça peut créer des problèmes où un problème qui aurait été pris à temps aurait
Tout
été beaucoup
fait.
Plus facile à traiter. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec des difficultés de traitement parce que le problème a empiré avec le temps. Ou parce que la personne, en fait, n'a pas eu accès aux outils, aux équipements adéquats pour la traiter de la bonne façon.
Exactement. Dans ce sens-là, ben cette initiative-là est saluée, disons-le comme ça. On parle de quelques initiatives aussi, en fait, dans les... la semaine de sensibilisation au handicap vise à sensibiliser les enfants des écoles maternelles. Alors, on a un peu partout en France des écoles qui ont des initiatives pour que les jeunes élèves soient conscientisés, si je peux dire.
Oui, en fait, il va y avoir différentes conscientisations qui vont être faites avec les élèves en situation d'handicap dans différentes écoles. Encore une fois, là, on en parlait dans les dernières semaines là, pour aider à la sensibilisation de ces jeunes-là. On va faire différentes activités, entre autres du sport adapté, pour montrer aux élèves à être plus ouverts d'esprit et sensibiliser à leurs camarades qui pourraient être en situation différente.
Ben, on voit que, en tout cas, les Jeux paralympiques ont l'air de faire du bien en France.
Oui, bien visiblement, en tout cas, ça met hein? Du gaz pour
oui.
des projets, ne serait-ce que pour sauver l'image de la France. Ça, c'est un peu triste, mais c'est ça quand même.
Oui, mais disons que si l'orgueil est une façon d'apprendre, bien, c'en est une façon d'apprendre. Hein?
Et l'important, c'est que les projets soient mis sur pied, qu'il y a des budgets qui ont été débloqués. Enfin, direz-vous, mais quand même.
Voilà.
Donc, il faut commencer quelque part. L'important, c'est d'avoir des projets. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la France dans les dernières semaines.
En parlant de France, Samsung Electronics France renforce son partenariat avec Handicap Zéro afin de rendre accessible aux personnes déficientes visuelles les notices et les modes d'emploi d'une sélection de produits mobiles. Alors ça, c'est bienvenu parce que c'est le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, c'est le vendredi fou, puis tout ça, puis on achète nos téléphones. Alors, d'ici la mi-décembre, les personnes en situation d'handicap visuel seront en effet proposées en braille, en caractère agrandi et en audio pour les appareils Samsung, que ce soit le Galaxy Flip 5 ou la série S23, Galaxy A14, ça c'est une tablette, je le sais. Et donc, depuis 20 ans, Samsung Electronics France poursuit ses actions afin d'améliorer l'action aux nouvelles technologies à plus de 1,7 million de Français déficients visuels en déployant le dispositif mode d'emploi adapté. Et là, j'avoue mon ignorance à savoir si Samsung Canada pratique-t-elle la même politique. Je ne le sais pas. Et ce serait une bonne question à poser. Peut-être qu'on pourra... à les avoir un jour à notre micro ou comprendre
un jour,
plus.
Peut-être, oui.
Peut-être, parce que les électroménagers qui ont des écrans sensibles, là...
Oui, et les téléviseurs également sont déjà adaptés par Samsung. Et sur les sites français de Samsung, on peut quand même télécharger les produits accessibles, les notices accessibles. Donc, on peut croire que c'est possible de les trouver pour les Canadiens, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué que si Samsung Canada embarquait dans le jeu.
Voilà. Juste pour terminer, en France, j'ai vu une expérience intéressante passer dans vos notes, Mme Pellerin. Les salariés de WeCare au Mans ont participé à une journée de sensibilisation aux situations d'handicap en entreprise grâce à des ateliers avec un simulateur.
Oui, on a utilisé un simulateur donc pour simuler 4 types d'handicap différents. Personne n'était donc convié à utiliser un simulateur pour se mettre dans la peau de personnes en situation d'handicap avec 4 handicaps différents. Tout ça pour les sensibiliser, bien sûr, et l'inclusion au travail de leurs collègues et plus largement aux situations d'handicap des citoyens, citoyennes de leur communauté. On parle de WeCare qui a quand même 600 salariés en situation d'handicap et la majorité étant des handicaps invisibles. Donc, on peut penser que ce type d'initiative-là va aider à mieux peut-être comprendre les collègues et avoir une meilleure... conversation, ouvrir la conversation entre les collègues. WeCare qui montre vraiment que l'accessibilité est quelque chose qui leur tient à cœur. Et cette expérience-là a ouvert quand même les esprits de plusieurs personnes. Et c'est fait de façon ludique en plus.
Oui.
Parce que c'est quand même intéressant comme expérience. En tout moins, c'est une expérience que moi, j'aurais aimé vivre. Donc, effectivement... Ça a été l'utilisation numérique dans ce cas-ci a été une bonne chose pour ouvrir les esprits.
Exact, parce qu'en fait, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle. Là.
Oui.
Puis là, si la personne dans une réalité virtuelle se retrouve dans une réalité à titre de personne en situation de handicap, ben là, tout d'un coup. La donne change, hein?
Oui, ben on voit que le quotidien peut devenir plus compliqué, avoir plusieurs obstacles auxquels on ne pense pas quand on n'est pas en situation d'handicap. Et l'intégration de travail également, là, les tâches les plus simples peuvent devenir assez fastidieuses quand on n'a pas les équipements qu'il faut.
Exact. Puis ce manque d'adaptation-là. Ben, il n'y a rien comme on dit marcher un mille dans les souliers de l'autre pour le ou la comprendre. Alors, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça de dont il s'agit. On va revenir après la pause au Canada et ce sera encore notre chronique ligne aérienne.
Pour faire changement.
De retour au Canada, et on faisait une blague au sujet de notre chronique hebdomadaire ligne aérienne, mais c'est parce que
on en parle beaucoup dans les dernières semaines.
Oui, on est passé par toutes les gammes. On a souligné les catastrophiques expériences de personnes en situation d'handicap avec des fauteuils qui détruits ou qui n'étaient pas livrés à destination, des passagers qui se sont blessés parce que le membre du personnel à la barrière s'obstinait à leur offrir une assistance qui n'était pas adéquate. Parce qu'ils étaient mal formés, mais ils avaient beaucoup de bonne volonté, mais ils essayaient d'aider les gens.
Des fois, la bonne volonté, c'est pas...
C'est pas la bonne recette.
C'est pas assez. C'est pas assez.
C'est pas assez. D'avoir une formation et de savoir ce qu'on fait, c'est toujours utile. Alors, tout ça a amené le ministre Pablo Rodriguez, il y a quelques semaines, à convoquer Air Canada, qui semblait être en première ligne des, des inadéquations. Par la suite, Air Canada, on en a parlé la semaine dernière, a émis une politique et même nommé ou créé un poste à l'accessibilité. Mais là, ça va plus loin encore. On est en train d'élargir un peu toute cette affaire.
On donne suite donc à une motion des néo-démocrates là, qui demande au Comité fédéral de transport une étude sur l'état des transports accessibles au Canada. Et donc, la motion est acceptée. On va donc inviter les présidents directeurs généraux d'Air Canada et de WestJet aux côtés du ministre des Transports, donc à la même table, pour pouvoir témoigner des problèmes d'accessibilité et surtout des solutions qu'ils vont y apporter.
Parce que, et là, si on parle d'accessibilité des deux grands transporteurs, parce qu'on ne peut pas croire que Air Canada semblait toujours faire la manchette, que les autres transporteurs aériens soient blancs comme neige. Là,
ça n'arrive pas. Ça arrive rarement, en tout cas, en transport aérien au niveau des personnes en situation de handicap. Souvent, c'est une question de chance ou de malchance d'être aux nouvelles ou pas, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le concurrent fait mieux.
Voilà, exact. Et peut-être aussi après ça, je ne sais pas s'il est question juste du transport aérien, mais il pourrait élargir ça à d'autres types de moyens de transport. Je pense au voyage en train, en autobus, ainsi de suite. Alors, donc, il y a la motion demande, la motion a été acceptée, elle a été votée, demande en outre au gouvernement de déposer une réponse à un rapport du comité qui devrait être présenté à la Chambre des communes. Donc, le comité va faire un rapport à la Chambre et enjoint le gouvernement de répondre. Alors, est-ce qu'une législation plus... mordante, peut-être va découler de tout ça. Alors, ça, c'est à suivre à notre prochaine chronique, ligne aérienne.
Voilà. On en parle la semaine prochaine.
Ouais, probablement, on ne sait pas. À bientôt, en tout cas, on s'en reparle. Il y a eu un énoncé gouvernemental qui a été déposé par le ministre des Finances au Parlement à Ottawa, puis ça fait des réactions.
Oui, en fait, on déplore que les personnes en situation de handicap soient complètement exclues de cet énoncé-là, donc un énoncé économique sur le dernier budget. Et on ne parle pas des personnes en situation de handicap. On ne parle pas non plus d'un versement supplémentaire de revenus de la part du fédéral pour les personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps. Donc, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap soit ajustée au problème d'inflation et donc qu'on donne un revenu supplémentaire aux personnes en situation de handicap qui sont particulièrement touchées, on le sait, par la pauvreté, par les problèmes d'accession à l'emploi, entre autres, et donc qui sont très, très à risque de tomber dans des problèmes au niveau de la pauvreté ou du chômage.
Oui, puis je dirais aussi, j'ajouterais à ça la situation du logement aussi, parce
oui,
que
bien sûr.
Si la pauvreté fait que souvent les logements se deviennent... trop coûteux, exorbitant.
Déjà que c'est difficile de trouver un logement quand on est en situation de handicap.
En plus, oui, un, puis deux, d'avoir les moyens de le payer.
C'est ça, il faut d'abord le trouver et après, quand on n'a que très peu de choix, on ne peut pas non plus négocier le budget tant que ça.
Exactement, et dans ce sens-là, il y a un regroupement, le Mouvement national handicap sans pauvreté, qui est un mouvement pan-canadien qui trouve ici son écho au Québec. Je pense que c'est Guillaume Parent qui en est le porte-parole au Québec. C'est donc... c'est manifesté et a décrié justement l'absence de mesures qui visent particulièrement les personnes en situation de handicap. Dans le dernier énoncé, le projet de loi C-22 qui concerne la prestation canadienne pour personnes handicapées reste encore à être mis en vigueur. Ça a été adopté, mais en fait, le principe a été adopté, mais toute la réglementation autour est encore à être définie. Puis,
On en a parlé pendant le discours du trône, donc on a fait les beaux là, pour les caméras, mais ça n'a pas encore été mis en vigueur. Donc, les personnes en situation de handicap n'ont pas plus en ce moment d'argent dans leur poche.
Pendant qu'on parle de fiscalité puis de ces choses-là, vous me permettrez, Élisane, je vais sauter. Un paragraphe auquel on reviendra peut-être, mais il y a un webinaire gratuit pour les personnes en situation d'handicap.
Oui, l'Agence de revenus du Canada invite les personnes en situation d'handicap ou les proches aidants pour regarder, donc avoir des informations sur le crédit d'impôt pour les personnes en situation d'handicap, sur la prestation pour les enfants handicapés sur le supplément pour les personnes handicapées de l'allocation canadienne pour les travailleurs, sur le crédit canadien pour aidants naturels et d'autres prestations de crédit et sur le régime d'épargne et validité. Donc, c'est un webinaire, vous l'avez dit, qui est gratuit et qui va permettre aux personnes en situation de handicap ou à leurs proches de mieux prévoir connect, leurs dépenses et d'avoir un peu plus de sous dans leur poche avec tout ça. Donc, c'est pour vous informer. C'est donc le mercredi 13 décembre. Il faut par contre s'inscrire sur le site du gouvernement du Canada dans la section des événements à venir.
Oui, exact. Et c'est un webinaire qu'on dit qui sera interactif. Alors, peut-être qu'il y aura questions-réponses ou d'une façon ou d'une autre. Il sera donné en français à 11h ce matin-là, le 13 décembre. Et en anglais, à 14 heures le même jour, l'inscription se fait par le site des événements du Canada, Service impôt sur le revenu, impôt des particuliers. J'avoue que j'ai vu tout ça par un mémo, un courriel que j'ai reçu du Regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal métropolitain, le RAM. Et si jamais, et là, j'espère que je ne me ferai pas des ennemis de ce côté-là, mais si jamais vous n'êtes pas tout à fait sûr de trouver le lien, bien peut-être que vous pouvez passer un coup de fil au RAM. Et ça va leur faire plaisir de vous aider. Hein. Le RAM, on le sait, on peut les rejoindre au 514-277-4401. Alors, ce webinaire-là, c'est important parce que le Québec est sous-représenté dans l'univers fiscal canadien. Les Québécois, Québécoises, hésite ou du moins en tout cas, ne réclame pas le crédit d'impôt pour personnes en situation de handicap à la même hauteur que les autres Canadiens, parce qu'on a comme une notion que on n'est pas vraiment handicapé ou ça va passer ou je vais m'arranger, puis on est un peu moins prompt. Alors, c'est pas vrai qu'au Québec, il y a moins de personnes en situation de handicap. Alors, il n'y a rien comme s'informer pour passer au travers.
Et il n'y a rien comme un crédit d'impôt pour nous rendre heureux.
Ben surtout quand on le mérite, parce que c'est vrai.
On le mérite.
Une situation d'handicap entraîne des coûts supplémentaires.
On tombe sur les trottoirs enneigés tout l'hiver, alors on mérite.
On mérite quelque chose. On mérite de s'acheter des crampons.
Oui, c'est ça. Mais
c'est vrai que la situation d'une personne handicapée est plus coûteuse. Voilà. Pour terminer, il y a eu des prix qui ont été remis.
Il y a des prix qui ont été remis rapidement. Donc, on parle de trois organisations à Montréal-Ariège qui sont récompensées pour l'accessibilité d'initiatives sportives au Centre des sciences de Montréal dans le cadre des reconnaissances d'Altergo.
Oui, alors le Centre des sciences de Montréal, Autisme sans limite et Corpuscule danse ont été récompensés dans le cadre du programme reconnaissance d'Altergo pour souligner leur accessibilité. Eh bien là, on leur dit chapeau, c'est très bien. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Lisanne. Merci encore. Eh oui, la semaine prochaine, on parlera peut-être de ligne aérienne, on ne sait pas.
De football, on verra.
Peut-être, c'est toujours libre. Mathieu Tessier, à la technique, qui aujourd'hui a fait des pieds et des mains, avec, ça n'a pas paru, hein, mais on avait une panne d'équipement, hein, c'est pour dire. Claire Guérin à la recherche. François Beauregard ici qui vous dit à la semaine prochaine. On sera déjà au mois de décembre. Oh là là!
Joyeux Noël!